CO2 Mon Amour, avec le WWF. Construisons un avenir où l'homme vit en harmonie avec la nature. Rendez-vous sur www.fr.
J'ai tout fait pour l'arrêter, mais il paraît qu'il a un mandat.
Désolé, monsieur, ceci est une propriété privée.
Coupez tout ça, coupez le général.
Je vous préviens, si vous coupez l'alimentation des machines, je ne réponds de rien.
Je vous réponds d'une chose, moi, c'est que je vous fais un procès pour non-respect d'au moins 6 lois en matière d'environnement. Alors, ou vous coupez tout vous-même, ou bien je le fais faire.
Au repos, monsieur Legend. Peter Winkman, il y a, me semble-t-il, un léger malentendu et je suis prêt à coopérer pour le dissiper.
Qu'est-ce-vous, Winkman?
Ne touchez pas à ça! Je vous aurais prévenu.
CO2, mon amour.
Oh, bravo.
Fallait pas, hein?
Bah non.
Capitaine, arrêtez-les!
Sur France Inter.
Ces deux hommes sont des crapules qui viennent de violer la charte de l'environnement!
Ah bah oui, bah c'est, ça c'est des choses qui arrivent, donc c'était extrait de SOS Fantôme de 1984, ça pourrait être un succès forcément formidable, mais c'était pas mal ça pour donc débuter cette émission. J'espère que vous allez bien, CO2 Mon Amour, votre magazine de nature et d'environnement avec Arnaud Caillet et Nicolas Cazot à la technique aujourd'hui, c'est Camille Blanès avec qui nous avons préparé l'émission et Jérôme Boulet qui la réalise. Et qui commence par une petite humeur, parce que vous avez remarqué que ça se verdit drôlement sec dans tous les partis. C'est normal, c'est le printemps. À moins que ce soit les élections, allez savoir. Alors, chez Renaissance, En Marche, on ne dit pas encore « Nous voulons des coquelicots !» Et déjà, on n'est pas loin du million, je crois que c'est 700 000 maintenant de personnes qui ont signé cet appel « Nous voulons des coquelicots !» Alors, faut pas exagérer, hein, même si les coquelicots, ça valent mieux que les couleuvres, hein, voilà, il y a quand même une marge. Mais exit, et là on peut le saluer, bientôt le projet de la mine d'or de Guyane, combattu d'ailleurs par Pascal Canfin quand il était directeur du WWF, et aussi, c'est un peu comme Hulot, donc il combattait Notre-Dame-des-Landes. Peu compatible avec les nouvelles ambitions écologiques, nous dit le président. Eh ben tant mieux. Nous attendrons de juger sur pièce l'efficacité du Conseil Fleur au Canon de Défense écologique. Mais maintenant que l'écologie est la mère des priorités et que, alors je cite toujours Emmanuel Macron, hein, pour gagner cette bataille en faveur de la biodiversité, nous devons agir sur tous les leviers. Il y a quand même un petit truc qui a fait peu de bruit. C'est la réduction des compétences du Conseil national de protection de la nature afin de simplifier les prises de décision. Elle risque de passer d'ailleurs sur la liste rouge, enfin ce conseil, comme une extinction des espèces. Donc c'est une instance scientifique indépendante de 60 membres qui rend des avis consultatifs éclairants pour le ministre ou bien les préfets. Donc avant un projet industriel ou d'infrastructure, ce conseil vérifie la présence d'espèces protégées, examine les dérogations à la protection desdites espèces, alerte sur les risques de dégradation des bestioles, des habitats, dit aussi comment on pourrait éviter de transformer le grand hamster, les loutres, les fleurs endémiques en hachis parmentiers et propose des améliorations donc au reportage. Alors vous rajoutez la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016 qui demande désormais aux pétitionnaires d'atteindre une absence de perte nette de biodiversité et notre fameux CNPN fait le job et évalue rigoureusement cet objectif, mais manifestement un petit peu trop. Et comme le rappelle donc Mediapart, on va lui substituer des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel qui sont déjà surchargés dans leur fonctionnement et qui, eux, travaillent sous la double tutelle de l'État et de la région et qui nomment les membres. Alors, avant que la machine à broyer se mette en branle, eh bien ce CNPN, en sursis, sort le soir, si vous voulez, la lampe de poche dans l'herbe haute et vérifie la présence ou non de la vie avant qu'au matin, la faucheuse ne passe. Voilà, c'est une métaphore, mais c'est un petit peu ça. Bon, ça paraissait raisonnable pour une saine gestion de ce qui reste encore de la biodiversité. Eh bien non, c'est encore trop pour certains. Il faut simplifier, ne pas entraver la compétitivité, que le CNPN range ses avis sur les infrastructures, ses conseils de spécialistes indépendants. Ces contraintes insupportables enrayent la croissance et le béton commence à prendre dans la toupie qui est à l'arrêt. Alors la jolie chouette chevêche, posée sur son mûrier, se disait « Ah ouais, en France, c'est vrai comme on dit joliment, hein, on a une marge de progression. Alors l'écologie, c'est oui, ah oui, c'est oui, c'est oui. » Mais sans contrarier la FNSEA, le MEDEF, le nucléaire, les chasseurs et les traités de libre-échange. Et puis, c'est envolé. Alors en mai, fais ce qu'il te plaît. Le 10 mai, donc ça c'était hier, l'Union européenne l'a fait, et nous sommes entrés en déficit écologique, date dévoilée par le WWF et Global Footprint Network. Et ça diminue à chaque fois. Hein. Là, c'est avant, c'était du côté du mois d'août, etc. Bon, là, ça signifie que si le monde entier vivait comme les Européens, eh bien nous aurions consommé l'ensemble des ressources naturelles que la planète peut renouveler en un an. Donc, vivre à crédit ou bien mort à crédit, à nous de choisir. Ah, alors là, nous avons un auteur de Polar qui crie autant qu'elle écrit sur l'environnement. Bonjour Fred Vargas.
Bonjour.
Alors Fred Vargas, vous avez écrit donc cette humanité en péril aux éditions Flammarion. J'ai presque envie de dire que c'est un polar dont on ne connaît pas la fin. Avec des accusés, on les connaît déjà, c'est-à-dire qu'il y a l'hyperconsommation, il y a nous, il y a les lobbies, et il y a l'inaction d'une partie des politiques. J'ai presque dire que c'est la routine.
Parce que le gouvernement n'a aucun intérêt à informer, ça fait depuis 1972 le sommet de Stockholm. On est parti en exponentiel, COP après COP, conférence après conférence. On est déjà à la 24e COP qui a été une calamité dans ses résultats, dans les décisions des gouvernants. Et la courbe n'a fait que croître et croître, la courbe de gaz à effet de serre, la courbe de température, la courbe de pollution, l'acidification des océans, la stérilisation des sols. Donc, ça fait 40 ans quand même qu'ils sont bien alertés, bien informés.
Et en même temps, vous ne voyez pas des choses quand même malgré tout évoluer? C'est-à-dire que tous ces constats, évidemment, on les fait depuis déjà de très nombreuses années. C'est une réalité. On le voit avec la biodiversité, on le voit avec le réchauffement climatique. Il y a quand même plus que du sursaut actuellement aussi.
Il y a un sursaut qui commence, je dirais, depuis 7-8 mois. Mais je m'aperçois que les gens sont totalement désinformés. Donc, ce que je veux dire, c'est que on nous a laissé dans une ignorance coupable, criminelle, et on n'est informé de rien.
Alors et on si pas les informé, gens, pardonnez-moi,
les Frédéric gens Gass. Savent les généralités, Denis, si vous me permettez, je vous appelle comme ça. Les gens sont au courant que la Terre se réchauffe, maintenant ils y croient.
Mais ce type de discours aujourd'hui...
On a 2-3 ans pour inverser les tendances, sinon le GIEC a prévenu. Donc si j'ai le temps, j'aimerais bien revenir sur le résultat de la COP24 qui m'a déterminée à écrire ce livre.
Alors Fred Vargas, quand même, quand vous parlez de non-information, il y a quand même depuis très longtemps, je veux dire que des tas de médias, Le Monde, Reporter, Mediapart, il y en a plein, enfin La Croix.
Mais qui a le temps de s'informer, de lire tout ça, d'aller sur Internet, de consulter les sources.
On a quand même l'info.
On a l'info générale ou dans les journaux sur un point précis. Mais l'info globale, puisque la nature et l'homme sont dans un système complètement interdépendant, l'info générale sur ce qui se passe, on nous fait croire que la voiture électrique, ça va nous sauver, on nous fait toujours « vous inquiétez pas, la technologie nous sauvera », c'est absolument faux. Les voitures électriques sont plus polluantes, jusqu'à 80 000 à 100 000 kilomètres, elle commence à atteindre un point où elle serait moins polluante que les voitures actuelles. Donc, ça, personne ne le sait.
Globalement, elles sont moins polluantes de 25%, même si on prend, parce que ça se passe beaucoup...
Ça dépend quelle est la source avec laquelle c'est.
Si c'est du charbon, effectivement, si c'est du charbon, c'est pas bon. Quoi.
Parce que leur fabrication est terriblement polluante, plus celle de la batterie au lithium qui va s'épuiser. Et comme faut changer la batterie tous les 10 ans, tout ça est une intox pour nous faire croire qu'on va rouler propre. Dans le détail et dans la masse totale des informations connectées, non, les gens sont pas informés, on reçoit pas de brochures, on n'est pas au courant de ce qui se passe. J'ai fait les sites ministériels plus insipides et plus insignifiants. Il y a même pas le pouvoir réchauffant des gaz. Les gens connaissent le CO2, mon amour, mais ils connaissent pas le protoxyde d'azote, ils connaissent pas le méthane, ils connaissent pas les terribles gaz fluorés qui sont utilisés pour fabriquer entre autres nos écrans plats et qui sont utilisés dans la chaîne du froid qui est immense et on arrive.
Et qui réchauffe 26 000 fois plus.
Et qui réchauffe 26 000 fois plus pour certains et qui ont une durée de séjour dans l'atmosphère extrêmement longue.
Alors, Fred Vargas, donc, le temps de manger un petit peu de clown pour se remettre. Quelques gouttes de musique qui sentent le hold-up, ce qui est parfait pour quelqu'un qui fabrique des polars.
En attendant. ma mort.
9h07.
On avance vers le guichet.
9h07.
La combinaison du coffre. Vite.
9h08.
Mais je vous jure, je la connais pas.
9h08.
Jojo sort son attirail. Et je vois ma mort.
9h09.
La serrure vient de céder.
9h09.
Je tourne la poignée.
9h10.
Ça fait un boucan du diable.
9h11.
Toutes les portes sont bloquées.
9h11.
Y'a des flics dans la rue.
9h11.
On peut rien dire de prendre. Sortez les mains.
9h12.
Et je vois ma mort.
9h13.
Ça déchire le silence.
9h13.
Ça me frappe en pleine tempe.
9h13.
Je tombe sur les genoux.
C'était Hold Up sur France Inter, CO2 Mon Amour avec Fred Vargas.
CO2 Mon Amour.
Mais écoutez mes enfants, il faut bien que vous compreniez quelque chose. Il faut qu'on se réveille. On est au bord du précipice et ça, il faut bien qu'on se le mette dans le ton.
Denis Chessou.
Le capital, tu viens de le dire toi-même, le capital, c'est foutu.
Ah oui, ça, c'est fini.
Bon, la société de consommation, c'est foutu.
Sur France Inter.
Une femme à la fois fragile mais aussi tout à fait résistante, donc qui pousse ce cri tout à fait documenté et qui est aussi d'ailleurs en recherche de vérité. Et ça, peut-être qu'on le doit, Fred Vargas, quand même à vos études, parce que vous avez fait votre doctorat en archéozoologie. Vous avez bien sûr travaillé beaucoup sur l'histoire de la peste au Moyen-Âge. Et donc, cette envie de vérité, elle vient de là aussi.
J'ai toujours eu, mais c'est pas seulement mes études, on dit toujours deux formations, mais ça a été ma profession, la recherche pendant 20 ans. Donc 15 ans au CNRS, donc savoir chercher, ça va.
Et alors, dans cette humanité en péril, vous évoquez pas évidemment votre père, mais il est très important parce que Philippe Audouin, c'était un homme qui était naturaliste, qui appartenait au groupe des surréalistes. Il vous a peut-être donné aussi, lui, quand vous étiez petite, le goût de la nature?
Oui, enfin, des fois, il nous saoulait parce que quand il nous emmenait dans les bois, nous, on voulait jouer et il nous arrêtait devant chaque arbre, devant chaque plante. Et j'ai partenu tous les noms qu'il nous citait, il nous amenait, il connaissait tous les insectes, tous les reptiles, tous les amphibiens, tous les oiseaux. Donc j'ai quand même été très imprégnée par cette science de la nature.
Il en est quand même resté quelque chose. Et cette conscience, elle est partie d'où? Est-ce que c'est venu progressivement? Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Il y a eu des lectures? Il y a eu un choc?
À 20 ans, j'étais déjà très alertée. À l'époque, c'était le nucléaire et le trou dans la couche d'ozone qui commençait à se reboucher, mais il se réouvre parce qu'il semblerait que la Chine fabrique et exporte illicitement le gaz qu'il y avait dans les aérosols qui avait été totalement supprimé.
Le CFC à l'époque.
Le CFC. Mais il n'y a pas que lui qui attaque la couche d'ozone. Il y a le gaz protoxyde d'azote, il y a le méthane, qui sont des ennemis numéro un de la couche d'ozone, qui nous protège quand même des rayons du soleil.
Il y a des cancers de la peau, donc.
Ouais, et donc on est assez mal barré.
Bon, alors donc, effectivement, il y a eu ça. Ce que je vous propose, c'est peut-être de faire aussi un petit tour maintenant du côté du Brésil. On va rejoindre Antoine Acker, qui est historien environnemental du Brésil, qui est maître assistant à l'université de Zurich. Bonjour Antoine Acker.
Bonjour.
Alors, je suis ravi que vous reveniez dans CO2 Mon Amour, parce qu'on a quand même cette actualité qui n'est pas exactement marrante, qui est signée Bolsonaro, ancien militaire, extrême droite, raciste, homophobe, climato-sceptique, et alors l'environnement, évidemment, c'est pas exactement son truc. On a envie quand même un petit peu d'en savoir plus, que vous regardez, vous, ce bassin amazonien. On rappelle qu'il y a 6,5 millions de kilomètres carrés, 5% de la surface terrestre. Cette Amazonie, elle est répartie sur 9 pays donc d'Amérique du Sud. Et quand même, la grosse partie, plus de 50%,
60%.
Voilà, donc effectivement, c'est le Brésil. Est-ce qu'on est à un point de non-retour aujourd'hui par rapport à la biodiversité, Antoine Acker?
Oui, c'est exactement ça, en fait. Le problème, c'est qu'une personne comme Bolsonaro, qui n'a aucun intérêt et aucune volonté de protéger l'Amazonie et d'empêcher la déforestation, arrive vraiment à ce moment où l'Amazonie arrive à un point, c'est-à-dire presque au-delà de 20% de l'extinction de la forêt primaire, des stocks de forêt primaire, qui est à peu près le très proche du seuil qui risque de provoquer un assèchement durable de la région.
Ce qui veut dire qu'il y a un effet de seuil autour de 20%, donc c'est ce point de non-retour dans l'équilibre climatique qui est aussi extrêmement important. Et alors, vous assistez, vous aussi, enfin on le voit, en fait, à une entreprise d'affaiblissement des organes de contrôle.
Exactement ça. En fait, le gouvernement fait tout pour que la législation de protection environnementale brésilienne, qui est assez développée, assez puissante et protégée par la Constitution, pour que cette législation ne soit pas appliquée. C'est un gouvernement qui criminalise les fonctionnaires de la fonction publique environnementale, de l'Agence fédérale de l'environnement, notamment en désavouant des opérations de lutte contre la déforestation, par exemple. Et c'est un gouvernement qui encourage les comportements illégaux, comme l'installation d'opérations minières dans les zones de préservation forestière ou même dans les zones de démarcation indigène.
Et alors, ceux qui résistent aujourd'hui, ceux qui se mobilisent pour l'environnement, que deviennent-ils? C'est-à-dire qu'on a aussi bien des étudiants, des paysans sans terre, etc.
Effectivement, il y a des secteurs qui seraient capables de se mobiliser pour l'environnement. Il y a les étudiants, il y a les sans terre, il y a les petits paysans qui pratiquent l'agriculture vivrière. Mais je trouve que le gouvernement est en train d'attaquer ces secteurs sur tous les fronts. On a appris cette semaine qu'il y aurait une baisse de 30% des dotations fédérales universitaires. Il y a une vaste opération de criminalisation du mouvement des sans-terres. Les subventions à l'agriculture biologique sont en train de s'écrouler. Donc toutes ces personnes qui pourraient être présentes aujourd'hui pour se mobiliser, organiser des manifestations contre la déforestation et faire pression contre le gouvernement, elles se retrouvent à devoir lutter pour leur survie quotidienne.
Alors Antoine Acker, jusqu'à présent, on va dire que les différentes forces politiques dans ce Brésil ont quand même fait relativement quand même attention. Bien sûr qu'il y a une déforestation. On rappelle qu'il y a 13 millions aujourd'hui d'hectares qui sont déforestés donc en zone tropicale, donc pas seulement en Amazonie, mais aussi bien sûr en Amazonie. Mais ce qui est nouveau, c'est que là, véritablement, Bolsonaro, pardonnez-moi, mais ça s'y est complètement dessus.
Sur le consensus politique qui a été créé, qui a été créé, qui a émergé en fait dans les années 30, l'idée que c'était un devoir du gouvernement brésilien et des institutions fédérales de protéger la nature, qu'il y avait une espèce de patrimoine commun, d'héritage naturel de tous les Brésiliens. C'est un consensus qui a même survécu à la dictature militaire des années 60 et 70, durant laquelle les agences environnementales ont continué à se développer. Par exemple, le ministère de l'Environnement a été créé en 1973. C'est assez précoce. Et Bolsonaro a voulu au départ même supprimer ce ministère de l'Environnement. Il l'a gardé face à la pression générale, mais il a retiré beaucoup de ses prérogatives. Donc on a vraiment une rupture par rapport à ce qui a été pendant très longtemps une cause qui a rassemblé tant bien que mal la plupart des courants politiques au Brésil, même si dans les faits, évidemment, dans l'application de cette législation, il y a toujours eu de gros problèmes.
Donc aujourd'hui, tout est entre les mains de l'agro-business, on va dire, et puis quand même Bolsonaro a déclaré « je ne laisserai pas un centimètre carré de terre aux Indiens ».
Un millimètre carré.
Mais pardon.
Alors après, là, il s'est corrigé. Ouais. On lui a demandé « voulez-vous commenté cette phrase que vous avez dite. Il a dit oui, je vais la corriger. Alors les journalistes ont dit c'est bien. Et il a dit ce n'est pas que je laisserai un centimètre carré aux Indiens, je ne leur laisserai pas un millimètre carré de terre.
Formidable. Donc Antoine Acquaire, donc c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'agro-business, c'est le Congrès aussi qui va dans ce sens-là.
Tout à fait. Alors sur la question des terres indigènes, il faut dire une chose très importante, c'est qu'elles ont été créées par la Constitution de 1988, qu'elles ont une fonction de protection des indigènes, mais que de fait, ce sont aussi les terres où il y a le moins de déforestation, parce qu'il est interdit d'y pratiquer des activités économiques provoquant une déforestation à large échelle. Et une des premières mesures du gouvernement de Bolsonaro, ça a été de retirer la compétence de démarcation de ces terres indigènes à une fondation indépendante qui s'appelle la FUNAI, la Fondation de l'Indien, et de mettre cette compétence dans les mains du ministère de l'Agriculture qui appartient en fait à Teresa Cristina, qui est la leader du lobby, qui était la leader du lobby agricole, du lobby de l'agrobusiness et du soja au Parlement brésilien.
Ben voilà, donc tout va bien. Une lueur d'espoir peut-être, Antoine Acquaire ou...
Il y a des choses qui bougent un petit peu au niveau politique. Le président de la Chambre basse et le président de la Chambre haute, notamment, ont demandé à Bolsonaro de revenir sur cette mesure qui retirait à la FUNAI la compétence de démarcation des terres indigènes. Il y a eu avant-hier une réunion publique de 7 anciens ministres de l'Environnement, de différents partis politiques brésiliens de droite et de gauche, qui ont demandé également à Bolsonaro de revenir, de cesser cette entreprise de démolition de la politique environnementale brésilienne. Il y a aussi les indigènes qui sont en fait ceux qui se mobilisent le plus intensément pour cette cause, qui sont en train d'organiser un grand campement, notamment dans la capitale, à Brasilia, devant le siège du gouvernement. Il se trouve que les nations indigènes sont envahies et attaquées depuis 5 siècles au Brésil, donc elles ont l'habitude de lutter, et aujourd'hui elles sont un peu le dernier espoir de l'environnementalisme brésilien.
Mais écoutez, un grand merci à Antoine Acquaire. Donc je rappelle que vous êtes historien environnemental du Brésil, maître assistant à l'université de Zurich, et que vous êtes toujours d'une très très grande clarté. Fred Vargas, donc vous l'avez compris, donc vous écoutez avec beaucoup d'attention, et il nous rappelle dans son ouvrage aussi que les pluies fournies par l'Amazonie n'ont pas qu'un impact local, ça va beaucoup plus loin.
Non, c'est un impact, je l'écris dans ce livre, le rôle de régulateur du climat de l'Amazonie est mondial. Et à présent qu'elle approche à 1% de son seuil de non-retour, elle va être dans l'incapacité de continuer à jouer son rôle. Et des chercheurs ont dit que l'Amazonie, à présent, émettait plus de CO2 qu'elle en absorbait, alors que les grandes forêts primaires surtout du monde, l'Amazonie, la forêt du bassin du Congo, les forêts indonésiennes et malaisiennes, ces forêts-là, beaucoup plus que celles de feuillus comme on a en Europe, absorbent 30% quand même du CO2, pendant que normalement les océans en absorbent aussi 30%, c'est déjà pas mal, mais seulement maintenant, ni les forêts qui sont détruites par les grands lobbies, avec le consentement des gouvernants, ce système obsolète et mortifère qui nous a mené dans cet abîme, qui menace l'humanité d'extinction d'ici 80 ans, c'est quand même pas rien comme sujet. On voit bien que c'est les lobbyistes qui décident de tout et les gouvernants obéissent. D'ailleurs, Nicolas Hulot, qui était bien placé pour le savoir, après sa démission au gouvernement, dans une émission, l'a dit.
Oui, c'était dans ce même studio. Alors, il y a quand même pas mal d'actions aussi. À la fin, vous dire, préférez le terme d'action à solution, donc à la fin de votre ouvrage. Hein. J'en cite quelques-unes. Encourager puissamment et financer l'élevage et l'agriculture biologique, légiférer sur les grands polluants, soutenir les entreprises qui investissent dans la dépollution, rendre obligatoire la captation du CO2, du méthane, du mercure en sortie des usines qui sont émettrices. Bon, il y en a pas mal. Légiférer aussi sur une récupération du précieux phosphore, on n'en parle pas assez, ça, du phosphore. Enfin, il y a un moment, on va buter sur tout cela, reboiser aussi les rives des rivières, soutenir les travaux sur la bactérie qui a été découverte au Japon, qui peut bouffer du plastique, les PET, vous savez, donc qui rentrent dans la composition des fameuses bouteilles de plastique. Et puis quand même, vous rappelez que ces responsables sont totalement dépendants de l'électorat l'électorat qui les porte au pouvoir, c'est-à-dire nous. Et c'est là aussi que vous appelez de vos voeux. De bien faire... Il y a un côté très Étienne de la Boétie, hein, d'ailleurs, dans cette affaire, dans cette troisième, on va dire, révolution solidaire. Et puis comme il y a des points, je veux dire, j'ai presque, presque obsessionnel, c'est-à-dire que comme l'agro-industrie dans votre ouvrage, si je sors ma boîte à meux, qu'est-ce que vous me dites, Fred Vargas ?
On mange 5 fois plus de viande aujourd'hui qu'en 1950. Il y a 4 têtes d'animal par être humain sur Terre, ce qui est colossal pour la Terre. Et c'est là que nous, les Européens, on peut jouer un rôle, parce que les Américains, avec Donald Trump et Bolsonaro, on est bien servis.
Qu'est-ce que vous attendez à la fois de nous, en tant que consommateurs ? Évidemment, de consommer, on va dire, moins de viande, et de la consommer avec à condition qu'elle soit élevée à l'herbe, et pas forcément au soja. Donc...
Oui, ce qui réduirait de beaucoup. C'est-à-dire que on nourrit les bovins avec du soja, ce qui augmente de beaucoup leur fermentation entérique. La fameuse blague sur les pets de vache, c'est pas une blague, parce que le méthane est 23 fois plus réchauffant que le CO2, quand
mais
même.
Le méthane, c'est par devant, hein. C'est la rumination, tandis que le pet de vache, c'est par derrière, c'est le CO2.
Le tout s'appelle le cycle de la fermentation entérique. Les vaches élevées à l'herbe en émettent beaucoup moins. Et on a des émissions de méthane énormes, suivies par les rizières. On a...
Fred Vargas, quand vous parlez des rizières, c'est très intéressant, parce que c'est vrai que ça produit aussi beaucoup de méthane. On sait que la moitié de l'humanité va se nourrir avec du riz. Mais il y a des solutions, c'est-à-dire que si on fait baisser un peu le niveau d'eau, c'est possible de jouer
baisser
sur les
hauteurs d'eau. Baisser le niveau d'eau et laisser le riz plus en hauteur pour éviter cette production de méthane. Et donc, en gaz à effet de serre, cet immense lobby de l'élevage-agriculture émet du méthane, de grandes quantités de protoxyde d'azote, qui se transforme en ammoniac. Donc, c'est première cause des pluies acides qui détruisent les sols et les arbres.
Alors, ce que je vous propose, Fred Vargas, effectivement, je ne vais pas ouvrir le gaz tout de suite parce que ça réchaufferait l'atmosphère. Je vais peut-être laisser la corde aussi. On va se prendre une chanson, puis on va essayer de trouver en fait des pistes d'action. Ah bah oui, avec Thierry Dupin et Jérôme Boulet, on est raccord avec l'actualité. Vote for me, the specials sur France Inter.
Ton nom, Marine.
Denis Chessou.
Pas biodégradable.
Sur France Inter.
Donc anti-écologique.
Alors on est cool, on respire, on ouvre ses chakras. Certes, ça va pas très très bien d'un point de vue environnemental aujourd'hui, disons-le. Et c'est très bien dit dans L'Humanité en péril, virons de bord tout, point d'exclamation, signé Fred Vargas aux éditions Flammarion. Voilà. Et alors, je voulais savoir, parce que on a différentes attitudes par rapport à cela. Soit on peut être dans le déni, alors ça c'est le côté protection qui peut être...
C'est un réflexe psychologique de se protéger d'une angoisse insupportable, parce que l'extinction de l'humanité, c'est pas rien à supporter. Donc le déni permet de s'en protéger, de continuer à vivre comme si de rien n'était.
On peut être collapsologue, c'est-à-dire avec un côté vivons heureux en attendant la mort, comme diraient des proches, ou bien comment bien vivre son effondrement façon, on va dire, Pablo Servigne. Ou bien on peut être espérantiste aussi. C'est plutôt par là que vous êtes. Même si ce n'est pas flagrant. Hein, mais bon.
Je comprends l'apsologue. On peut prévoir, effectivement, on a toutes les raisons de prévoir le pire. Mais il y a chez moi, il y a toujours eu, je m'en aperçois avec le recul, qui est maintenant assez long, une obsession de la résolution. Que ce soit même les romans policiers qui sont symboliquement un exercice de résolution.
Donc vous êtes plutôt espérantiste, hein, c'est vous
êtes
à prendre votre...
Cherche,
vous cherchez.
Quoi qu'il arrive, je veux pas accepter, je peux pas accepter comme les collapsologues que toutes les portes soient strictement fermées. Je cherche des issues tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les jours.
Alors, il y a une issue, si vous voulez, c'est parallèle ce petit reportage que l'on va entendre, une issue qui est tout à fait intéressante lorsque l'on est, par exemple, un jeune décrocheur. Ah, alors ça, tenez, je vous emmène dans le 13e arrondissement.
Je suis venue, j'avais 16 ans, j'avais été déscolarisée pendant 5 ans en CM2, entre-temps, j'ai été ailleurs. Voilà, et quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé ça vraiment humain.
Alors, depuis un an, Vénus, que tu es ici, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu fais?
Alors, plein de choses. Alors finalement, je pensais arriver et faire quelque chose de scolaire. Et bah, pas tant que ça, en fait. C'était beaucoup d'art plastique, beaucoup de choses avec ses mains. On a appris à faire des chaises, par exemple.
Parce qu'il faut quand même préciser qu'on est dans un lieu où le recyclage est quand même au cœur, on va dire, de cette éducation, de cette pédagogie.
Oui, effectivement.
Je vous emmène au PIL. Le PIL, c'est le pôle innovant lycéen. C'est rue Barreau, dans le 13e arrondissement, où comment réconcilier les décrocheurs avec l'école. Donc des filles et des garçons qui sont pas plus bêtes que d'autres, mais qui ne se sont pas adaptés au système classique de l'éducation nationale. Et ce lieu, donc ce pôle innovant lycéen, permet de raccrocher un an, deux ans. Et il permet de raccrocher aussi avec de l'environnement et aussi avec du recyclage. Le recyclage permet de raccrocher aussi ces jeunes.
Bah oui, le recyclage c'est important, je trouve, puisque juste un moment on n'aura plus de ressources et il faut apprendre à réutiliser nos ressources, quoi. Et c'est bien ce qu'on apprend à faire ici.
Qu'est-ce que tu as trouvé pour toi qui est très valorisant en fait?
Alors déjà, ce que je trouve valorisant ici, c'est qu'on fait beaucoup de travaux manuels. Dans les travaux manuels, on essaie toujours d'intégrer un peu genre en rapport avec le recyclage.
Ah, alors là, je vois la recyclerie avec vélo, électroménager, mobilier. Il y a tout le cycle en fait de vie. Alors la recyclerie, qu'est-ce que c'est? Évidemment, on remet en état et à neuf du mobilier, des vélos, des pièces détachées, tout ce qui peut fonctionner donc aussi à l'électricité. Après, donc, on peut l'acheter. Nicolas, un des enseignants ici, donc à côté donc de la perceuse, du fraisage, on a des fourches de vélo, on a ces bicyclettes qui peut-être sont pas très très en forme quand elles arrivent et puis elles vont repartir pétant le feu, si j'ose dire. Comment vous voyez ces jeunes quand ils arrivent et aussi après quand ils repartent? Parce que c'est où être là quand même le travail et après la satisfaction.
Le fait de réparer, je pense que les élèves se réparent un peu eux-mêmes. Hein. On pourrait le dire aussi, on essaie de déconstruire pas mal de choses en arrivant et on se reconstruit en recyclant. Donc on essaie, donc, les enseignants, de donner un maximum de sens dans les enseignements, un maximum d'applications concrètes et toute la partie environnementale. Il me semble que c'est une génération qui est beaucoup plus à même de comprendre les phénomènes climatiques du moment. Et donc, on essaie très très vite de mettre la main à la pâte autour donc des énergies renouvelables, notamment autour donc du recyclage, notamment du vélo. Et les élèves se transforment très vite d'ailleurs en acteurs, puisqu'on a des partenariats où on va sensibiliser donc dans des entreprises, au ministère de l'Intérieur cette année, à l'Agence française du développement. Ça donne beaucoup de confiance, il me semble, le fait donc de les voir transmettre à leur tour des choses apprises ici. Et nous, on a cette particularité de pouvoir mettre en pratique la majeure partie des enseignements donc sur un séjour de développement à l'international. Donc au Cambodge cette année, au Nicaragua pendant 7 ans, au Sénégal et à Madagascar il y a quelques années. Et là, bon, là, c'est l'occasion de mettre en pratique tout ce qui s'est passé avant, d'apporter vraiment réellement quelque chose aux gens, de se rendre utile et de revenir, on va dire, blindé, motivé et se sentir prêt donc à réaliser son projet de formation. Quoi.
C'est quasiment un repère café quoi ici maintenant.
Oui, on accueille le Repair Café d'ailleurs sur des créneaux dans la semaine. C'est une petite entreprise, une petite école de production. On vend des choses. Je précise que les choses vendues servent également donc à financer les projets à l'international et les projets des élèves, notamment donc, nous au Cambodge. Mais mettons quelque chose de tout simple. Un élève qui veut donc, par exemple, passer son BAFA va pouvoir s'investir plus dans la recyclerie et puis s'autofinancer son BAFA grâce à la vente des objets qu'il aura fait recycler. Recycler, c'est aussi apprendre des méthodes de recyclage. Ça paraît bête, mais réparer un vélo, on s'aperçoit qu'il y a très très peu de personnes qui savent se débrouiller tout seul autour du vélo.
Toi, qu'est-ce qui te plaît ici ?
C'est d'être assez libre de ce qu'on peut faire. Le côté scolaire, nous, on est classe lycée des futurs. On s'occupait de la boutique de la recyclerie, tout ce qui vend les vélos, les grippins, les cafetières.
Pourquoi vous sentez mieux, vous, ici ?
Au niveau des enseignants, la manière de faire, les horaires de cours. Après, c'est le choix de classe aussi. Il y a plusieurs classes. Il y en a qui partent au Cambodge pour des œuvres humanitaires.
Oui, parce qu'on a une section humanitaire. Alors ça, on va peut-être y aller. On va voir où ils sont, nos petits camarades de l'humanitaire. Il doit être par là. Oui, ça doit être une section internationale, là, dites donc, là. C'est ce que j'ai appris. Bah, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Quel est ton prénom ?
Martin.
Alors, Martin et ?
Jawed.
Et Jawed. Alors, là, on est rentré dans l'atelier vélo et on m'a dit international. Racontez-moi. Je vois un panneau solaire, là, sur une remorque.
Exactement, ouais, c'est un autre projet cette année. En gros, notre classe, c'est le lycée de la solidarité internationale. Nous, on travaille beaucoup sur tout ce qui est développement durable.
Qu'est-ce qui te plaît ici, dans ce lieu, dans ce lycée ?
Très franchement, avant de le voir, j'y aurais pas cru. Parce que c'est vraiment un lycée qui nous a permis à tous, je pense, de vraiment repartir sur de bonnes bases. C'est vraiment quelque chose d'incroyable.
Ça, vous aviez décroché quand ?
Alors moi, j'ai décroché en seconde. Après ça, je vous avoue que voilà, les cours, etc., ça ne me convenait plus tellement. Et ce lycée m'a vraiment permis de reprendre goût aux études, aux cours. C'est totalement une autre façon d'apprendre. Et les gens sont, pour la plupart, voire la quasi-totalité, tous contents. Parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On fait des voyages. C'est une chance.
Alors c'est bien parce que vous le prenez véritablement pour ce que c'est, c'est-à-dire une autre chance donc pour vous, ce qui prouve bien qu'à n'importe quelle étape de sa vie, de toute façon, la vie n'est pas terminée, il faut le rappeler. Alors donc, quel âge aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, j'ai 18 ans.
Et quel sens tu donnes et après, qu'est-ce que tu as envie de faire ?
Alors moi, à titre personnel, j'ai envie de faire du droit. Les personnes qui nous encadrent nous permettent vraiment de réaliser, on va dire, nos projets. Et c'est, voilà, c'est...
Ça vous passez par de la création, par du travail manuel, par de l'envie, là en l'occurrence avec de l'humanitaire donc, qui est derrière. Et après, rien n'empêche de reprendre des études plus classiques
ou... Ah oui, bien sûr. C'est vraiment en fonction des projets.
Par exemple, il y en a qui aiment la musique, qui ont envie de rapper, bah, ils vont se développer là-dedans. Ensuite, il y en a d'autres qui aiment l'aide à la personne, donc ils vont se développer aussi là-dedans, etc. C'est vraiment d'élaborer en fait, une passion ou... des convictions.
Il y a quand même un pôle extrêmement important, puisqu'on y est, c'est la recyclerie.
Oui.
Ça structure aussi sacrément le lieu. Quoi.
Bah, en fait, c'est un peu l'élément principal des locaux, en fait. Tout tourne un peu autour de ça. Bah, justement, aujourd'hui, il y a une journée porte ouverte pour le vernissage de la boutique. La boutique, ça fait quand même du bien de l'avoir finie, parce qu'on a travaillé dessus. Elle aussi, elle a été faite avec des matériaux recyclés, donc c'est-à-dire que toute la boutique est faite en palettes, en bois.
Et vous étiez sensibilisé déjà à l'environnement, oui ?
Bah personnellement, moi, ça me touche. Après, je ne parle pas au nom de tout le monde. Tout ce qui est de façon au rapport avec la nature, les animaux, etc. Oui, ça me touche. Donc, ça fait toujours du bien de pouvoir contribuer à quelque chose.
Martin, est-ce qu'on apprend l'autonomie aussi ici ?
Oui, beaucoup, ouais. Parce que déjà, on n'est pas, comment dire, il n'y a pas forcément de réelle pression de la part des professeurs. Ça, c'est un truc dans le système général, c'est quasi tout le temps, il y a ce genre de choses. Pour moi, ça ne permet pas à l'élève de s'épanouir et de dire ce qu'il a vraiment envie de faire. Parce qu'au final, on lui impose des choses et ici, ce n'est pas le cas. Peut-être, oui, il y a des cours normaux comme dans la plupart des lycées, mais il y a une approche différente en fait. Et c'est ça qui fait un peu la force du PIL, parce que c'est une approche différente, une pédagogie différente. Ça revient à apprendre des choses, mais à les concrétiser après d'une autre manière.
Est-ce qu'on arrive à se projeter ?
Alors au début de l'année, non, parce qu'on arrive tous au même point, on est un peu tous dans la même merde, si je puis dire. Et tout au long de l'année, en fait, les professeurs nous aident à concrétiser, comme a dit Jawed, un projet qu'on affectionne, etc.
Là, je vous entends depuis un certain temps, tous. Est-ce que c'est pas non plus un problème de manque de confiance qu'on a eu à un moment ou à un autre ?
À titre personnel, moi, j'avais pas confiance en moi, et encore maintenant, bon, c'est difficile. Et je pense que la plupart des gens aussi ont ce manque de confiance en soi. Mais justement, les professeurs nous aident à avoir cette confiance-là et puis à se valoriser un peu, quoi. Parce qu'on arrive tous en mode, on sait rien faire, on a été exclus du système général, donc.
Donc on n'est pas valorisé, quoi. On
exactement, pas... ouais.
Bon, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter maintenant aux uns et aux autres ?
Alors déjà que le PIL ne ferme pas, ça je voudrais passer un message parce que c'est quand même une structure assez comment dire, spéciale, et puis il n'y en a pas beaucoup en France, et que les locaux ne soient pas déplacés aussi.
13e arrondissement, rue Barreau, donc ce PIL, ce pôle innovant lycéen, donc avec ces jeunes qui sont pas mal quand même, Fred Vargas.
Oui, oui, mais on a besoin justement qu'ils soient tous informés. Ils ne sont pas tous, il y en a beaucoup, parce que j'ai appris il y a peu de temps qu'il y avait presque 50% des jeunes qui n'achetaient plus leurs habits que d'occasion, puisque le lobby du vêtement crée une pollution des mers absolument monstrueuse, puisque toutes les fibres polyester, etc., plastiques, donc, qui sont dans nos vêtements, on en relâche plus de 13 000 nanoparticules par machine à laver, donc vous imaginez le nombre que ça fait dans les océans. À propos d'océans, je veux juste finir sur cette saleté de lobby agroalimentaire qu'il faudrait détruire dès demain 8h, oui, ou si vous voulez la semaine prochaine. C'est la première source de pollution des eaux, alors que l'agriculture biologique a des rendements égaux ou supérieurs en déposant pour chaque plante et selon chaque plante, la quantité d'eau exacte dont elle a besoin, la quantité d'engrais naturel exacte dont elle a besoin, etc., etc.
Faut plus de surface, c'est tout. Mais sinon, effectivement, en termes de qualité, c'est évident. Est-ce que Fred Vargas, l'ère de l'obéissance des peuples s'achève aujourd'hui ?
Je l'ai écrit, je le pense. Je pense que l'ère de la crédulité, encore que c'est toujours long, c'est ça qui me... Et moi, je suis d'une nature impatiente, donc c'est long, mais...
Mais c'est pas possible, avec l'environnement et le temps long, enfin, c'est pas possible.
Oui, mais on est dans une situation d'urgence.
Ah non, on est d'accord. Ouais.
Donc, ce que j'ai pas dit, c'est que ce qui m'a déterminé, c'est la catastrophe de la COP24. C'est-à-dire que longtemps, on s'est dit, les gens se sont dit, on leur fait confiance, ils vont bien trouver quelque chose, ils vont bien décider quelque chose. Et à la COP24, le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui sont pas des nains de jardin, a dit qu'il fallait revenir sur les accords de Paris et ne surtout pas dépasser plus 1,5 de température. Est-ce que les gens savent pas, c'est que plus 1,5 qui leur paraît rien du tout, sauf un meilleur été en Bretagne.
Parce qu'on fait pas la différence entre le climat et la météo, c'est pour ça.
Non, c'est parce qu'en fait, c'est une moyenne mondiale qui est établie par le GIEC, vous le savez, Denis, et qui tient compte de la température des océans et des pôles, etc. Donc, quand ils disent 1,5 et ne surtout pas atteindre 2 degrés, 1,5, ça représente environ 3,7 degrés en plus sur les continents. L'année dernière, alors qu'on n'est que à 1,1, on a perdu en France, pays tempéré encore,
12%.
12% à 20% des récoltes selon les plantes. Alors, imaginez ce que ça va être à 1,5. Si on atteint 2 degrés, on est parti pour, vu que rien n'arrive à les faire sortir de ce système névrotique dont ils peuvent pas imaginer un autre modèle, un autre système, la techno nous sauvera,
beaucoup plus
etc.
Apaisé, et
à 2 degrés, c'est la moitié du globe qui sera impactée et trois quarts de l'humanité en péril vital. Ils ont choisi d'aller jusqu'à 2 degrés jeudi.
Ah oui,
c'est un comportement criminel alors qu'ils sont responsables de nos vies.
Fred Vargas, globalement, réduire la voilure, quoi qu'il arrive. On rentre dans une société, on quitte la société du gaspillage pour arriver à une société quand même de modération. Que ça
Denis,
de...
c'est plus que la modération, ouais, bien, Denis. Avant,
c'est une révolution,
et aujourd'hui
là,
encore, la décroissance était le terme non seulement tabou, mais blasphématoire.
Non, il passe.
Interdiction. On est déjà en décroissance. Oui. Et les jeunes qu'on parlait tout à l'heure parlaient beaucoup de recyclage. Donc, de toute façon, il faut recycler. Quand on n'aura plus de cuivre, qu'est-ce qui va se passer?
Que dites-vous à un jeune qui nous écoute aujourd'hui? Il vous écoute, on sent quand même bien, si vous voulez, alors à la fois cette force, cette fragilité, cet engagement, mais aussi cette douleur qui est là. Voilà.
Ouais.
Et on sait très bien que si on crie, on aboie à un rat qui est dans une cage sans lui montrer la sortie, vous allez le stresser encore plus. Donc on est aussi des animaux qui avons besoin quand même d'avoir un petit bout d'horizon.
Je dis qu'on est 7 milliards et demi d'êtres humains sur Terre. Donc il faut d'abord s'informer bien, complètement et tout, parce que l'information, on peut pas agir, avoir envie d'agir si on n'est pas informé.
Pétition, vote, désobéissance civile, manifestation, le monde associatif, agir sur sa consommation, tout ça, ça fait quand même aussi bouger les choses. Ça remonte, ça percole, jamais assez vite.
Oui, mais on a l'impression qu'on le fait tout seul dans son coin et que ça sert à rien. Il faut que...
Et pourtant, ça sert.
La cohésion de ce mouvement augmente,
oui,
ça croise.
Oui. Grand merci à vous, Fred Vargas. Donc, l'humanité en péril, virons de bord toutes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Qu'on n'atteigne pas de degrés.
Merci à vous.
Il y a une chance pour ça.
Merci beaucoup. À très bientôt.
Merci, Denis. Au revoir.
CO2, mon amour, sur France Inter.
Est-ce qu'on peut reprendre au début, reboire le vin que l'on avait bu? Moi j'aimerais que l'on se rendorme dans un lit à mémoire de forme et que l'on se réveille pareil. Est-ce qu'on peut reprendre mine de rien, comme à la page cornée du bouquin qu'on avait refermé la veille en luttant contre le sommeil? Est-ce que jusqu'au mot fin on tient? Je sais bien l'existence suit le même unique sens que l'eau, mais referais-tu ce baiser offert autant que voler tantôt? Est-ce qu'on peut reprendre à la source, poser les pierres qui changent sa course, inonder un nouveau décor? Va savoir ce qui peut éclore, des plantes au bord du fleuve, toutes neuves. Je sais l'incandescence des cœurs et par essence fragiles, mais referais-tu ce baiser offert autant que voler fébrile? Est-ce qu'on peut reprendre au début? Est-ce qu'on peut reprendre au début? Thank you.
Dans son lit à mémoire de forme sur France Inter, c'était Renan Luce, très agréable au début.
Y a quelqu'un ?
Denis Chessou sur France Inter.
Oh bah oui, puis il y a vous, et voilà, bah oui, alors la formation quand même, elle circule, hein. Je dis à Fred Vargas, depuis 30 ans quand même, les livres, la presse, la radio, les réseaux maintenant sociaux, et aussi le monde associatif, 01 56 40 40 35.
Bonjour, Didier de FN Rhône. Pour indiquer une nouvelle action le samedi 11 mai pour sauver le site de l'île de la Table Ronde à quelques kilomètres au sud de Lyon, site qui risque la destruction de 25 à 30 hectares de forêt. On vous propose balade naturaliste, atelier participatif, conférences, prise de parole. Et le soir à 20h, repas en musique et projection du film « Après-demain » de Cyril Dion, réalisateur du documentaire « Demain » qui a eu un très grand succès. Donc ce nouveau documentaire sur les traces du premier cherche à comprendre quelles sont les clés pour mobiliser massivement et tenter de sauver la planète. Pour plus d'infos, sur la page Facebook du collectif Sauvegarde de l'île de la Table Ronde. Voilà, et encore merci à Denis pour l'émission.
Et nos merveilleux déchets nucléaires à vie longue. Ah ouais, ouais, c'est-à-dire ceux que devront donc gérer nos arrière, j'arrête là, donc petits-enfants. Là aussi, message.
Bonjour, c'est une invitation à aller voir les photos et la vidéo d'une très belle action qui a été menée dimanche par une centaine de citoyens du pays de Ré, de Nantes et de Saint-Nazaire. Ils ont animé un superbe beach art, un grand dessin sur le sable représentant le logo de la lutte de Bure. Une manière originale de dire non au projet CIGEO, vous savez, ce projet d'enfouissement de déchets hautement radioactifs de très longue durée. 80 000 mètres cubes de déchets nucléaires, 300 km de galeries souterraines, à 500 mètres de profondeur sous les terres du village de Bure. Un chantier de plus d'un siècle avec deux trains à risque chaque semaine. Et une fois que le site serait plein, eh bien, on reboucherait et on attendrait que la radioactivité disparaisse. Beaucoup de citoyens ne sont pas d'accord, il y a trop de risques. Risque d'incendie, d'explosion, d'infiltration et donc de contamination de l'air et de la plus grande nappe phréatique de France. On ne peut pas laisser faire ça sans rien dire. Alors même à 700 km de Bure, on se sent concerné et c'est pour ça qu'on a fait cette action. Pour voir les photos et la vidéo, c'est simple, allez sur la page Facebook Henri Bure. Henri Bure.
Et vous avez donc actuellement donc un débat public hein, sur l'enfouissement donc de ces fameux déchets. Donc ça, on se le refile merveilleusement. Qu'est-ce que ça va devenir? En tout cas, c'est toujours extrêmement chaud. J'ai reçu, tenez, un ouvrage pas plus tard qu'aujourd'hui aux éditions du Seuil et Reporter de Christine Laurent qui s'appelle « Mon jardin sans pétrole ». Alors c'est le chemin en fait d'une transformation. Enfin, si vous voulez, au départ, c'était un simple besoin de trouver, on va dire, une respiration face au stress de la grande ville. Et puis ça s'est mué donc en connaissance du milieu, en philosophie de vie. Donc c'est tout ce chemin qui est raconté en observant donc les cycles naturels. Mon jardin sans pétrole de Christine Laurent, ça nous fait plutôt du bien. Oh là, petit générique qui nous dit quoi? Donc c'est la fin. Bah oui quand même. Ah oui, faut s'arrêter un moment ou un autre, bien sûr. Avec Nicolas Cazot que nous remercions la technique, ainsi que Alexandre Chenet qui hier la semaine dernière, je vous remercie pour vos messages sur Bruxelles parce qu'il y en a eu quand même beaucoup, qui avait mixé Bruxelles, qui a mixé aussi donc le Pile que nous avons donc entendu. L'émission a été préparée par Camille Blanès et c'est Jérôme Boulet qui, main de maître, faut le dire, l'a réalisé. Anne Gouzon donc nourrit les sites. Semaine prochaine, on va être là aussi dans l'actualité. Ça va être Union européenne et environnement. Voilà ce que ça a apporté, les limites, les trucs, enfin aussi tout ce qui a été l'apport de l'Union européenne quand même en matière environnementale. Les messages, vous avez l'habitude, 01 56 40 40 35. Rediffusion entre 5h et 6h du matin. Le podcast, vous en avez l'habitude également.
CO2 mon amour, avec le WWF. Ensemble, préservons l'équilibre des forêts. Rendez-vous sur www.fr.